Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Deuxième émission aujourd'hui en compagnie de Leonardo Incapier, docteur en littérature médiévale et enseignant de langue, qui a consacré un travail de doctorat à la légende de Tristan et Iseult. Cette recherche doctorale a été publiée par les éditions La Fontaine de Pierre sous le titre Iseult, la vie, la mort et le renouvellement. Alors souvenez-vous, Tristan, envoyé par le roi Marc, se rend en Irlande à la recherche d'Iseult afin de la marier au roi. Iseult, mère, donne à sa fille un filtre d'amour qu'Iseult, la blonde, et Tristan boivent par mégarde sur le chemin du retour. Un amour impossible et passionné va naître entre eux. Impossible car le roi Marc de Cornouailles épouse Iseult, passionné car les deux jeunes amants ne peuvent s'empêcher de se retrouver et de s'aimer grâce à toutes sortes de stratagèmes. Enfin, Tristan part pour la Bretagne où il rencontre Iseult aux mains blanches, qu'il épouse tout en restant amoureux d'Iseult, la blonde. L'histoire, comme chacun sait, se termine de manière tragique. C'est le célèbre épisode des voiles de bateau blanches pour annoncer l'arrivée d'Iseult la blonde, venue soigner Tristan, ou noires pour, au contraire, lui annoncer qu'elle ne viendra pas. Iseult aux mains blanches déclare que les voiles sont noires, alors qu'elles sont blanches, funeste conséquence de ce mensonge fait par jalousie. Mais je vous invite à vous plonger dans la lecture passionnante de ce mythe, ou tout du moins dans le résumé détaillé, très détaillé, que propose Leonardo Incapier dans son livre « Iseult, la vie, la mort, le renouvellement » dont vous trouverez toutes les références sur notre site internet, sur la page « Règlement de compte ». Alors pour nous accompagner dans cette deuxième émission sur la légende de Tristan et Iseult, nous avons bien sûr à nos côtés le docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Olivier Lostis de l'Esperluette et Monique et Michel Baqueta qui sont les animateurs des éditions de La Fontaine de Pierre. Et bien sûr, Leonardo Incapier, j'avais failli l'oublier.
Bonjour,
bonjour Leonardo.
Bonjour.
Alors, ça va, je ne me suis pas trop trompé dans ce résumé. L'histoire est beaucoup plus complexe. Hein.
Oui, mais disons que vous avez bien synthétisé le point important pour l'analyse.
Pour l'analyse. Ouais. Le point important, c'est donc une histoire d'amour. Vous l'avez dit dans la précédente émission et ça va être le point central de tout votre livre.
Tout à fait. Une histoire d'amour tragique. Faudra ajouter le mot tragique
ouais.
Parce que il y a beaucoup de types d'histoires d'amour, mais ça, celle qui nous a touchés, celle qui est restée dans comme héritage de nos histoires d'amour, c'est une histoire d'amour tragique.
Et oui, et ça a donné toutes les histoires d'amour finissent mal en général. Par exemple.
Disons,
et bien d'autres, d'autres chansons dans ce thème-là, évidemment.
Tout à fait. Évidemment. Disons que on pourrait penser que c'est aussi une croyance que nous avons vis-à-vis de l'amour, que l'amour le plus souvent est tragique.
N'anticipons pas. Alors pour bien comprendre de quoi nous parlons, j'aimerais, Leonardo Incapier avec vous, qu'on dresse peut-être d'abord une cartographie de cette histoire. Il y a trois lieux, la Cornouailles, l'Irlande et la Bretagne. Et bien évidemment, d'un point de vue symbolique, ces trois lieux ont beaucoup de choses à nous dire déjà.
Oui, disons que le point commun vis-à-vis de déplacements de personnages, principalement de Tristan, qui est celui qui se déplace tout au long de la légende, c'était de traverser la mer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il devait rencontrer Iseult, une des Iseult, parce que comme vous l'avez dit, il y en a trois, il traversait la mer. Et que donc, il y a ces points communs vis-à-vis de ces déplacements, mais il y a aussi le fait que l'Irlande, pour le Moyen-Âge européen, était véritablement un espace magique, un espace d'enchanteresse et de fées. C'était, en tant qu'île, c'était perçu comme un espace en dehors de ce qu'il concevait comme civilisation, en tout cas la civilisation de l'époque.
Et le dernier, c'est la Bretagne.
Oui, la question c'est que ça dépend des auteurs, ah. Ce n'est pas toujours la Bretagne. On n'est pas, au Moyen-Âge, ce n'est pas très clair, la géographie n'est pas si claire que de nos jours. Disons que pour les auteurs médiévaux, la Bretagne, ce n'était pas très clair où elle était exactement. C'est-à-dire que ça devenait en quelque sorte aussi des espaces symboliques. C'est-à-dire on appelait la Bretagne, on savait que peut-être l'Irlande, c'était aux confins du monde connu. Vous voyez, tandis que nous pouvons percevoir l'Irlande, nous savons que l'Irlande, en fait, est très proche du continent européen. Donc, l'espace géographique à l'époque n'était pas si clair que aujourd'hui.
À propos de l'Irlande, vous allez beaucoup plus loin après dans la symbolique de ce pays. C'est le voyage dans l'au-delà presque.
Disons que c'est une comme je disais tout à l'heure, c'est une perception vis-à-vis de l'Irlande au Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour le Moyen-Âge européen, surtout les îles pouvaient être des espaces de l'inconnu. Du fait qu'elles étaient entourées d'eau déjà, et que pour la mythologie, notamment celtique à l'époque, la traversée, c'est-à-dire faire une traversée dans la mer avait un sens qui se rattachait à cette idée de l'inconnu, de l'au-delà. Donc il y a cette idée d'une Irlande qui pouvait réserver pas mal de surprises.
Je me tourne vers Monique Baqueta, qui est animatrice des éditions La Fontaine de Pierre, parce que toute cette histoire, il faut l'entendre dans le travail de Leonardo, sous l'angle du rêve, de l'archétype, et tout de suite traverser la mer, l'Irlande comme l'au-delà, ça parle d'un point de vue de la pensée jungienne, évidemment.
Oui, parce que c'est... aller, comme dit Leonardo, au-delà des limites de notre conscience, de notre moi conscient. C'est aller vers ce que Jung a appelé l'inconscient collectif et trouver au niveau de, dans cet inconscient collectif, une image, les images universelles et aussi une image qu'il a... enfin, un concept qu'il a élaboré, qu'il a appelé le soi, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du religieux, si on peut dire, et qui a un rayonnement et un facteur d'équilibre à l'intérieur de la psyché. Donc, si Tristan doit partir vers cet au-delà qu'est l'Irlande, ça veut dire que le continent a besoin d'être mis en relation avec un inconnu, avec quelque chose qui peut lui apporter un sens dont il n'est absolument pas conscient sur le moment même. Et donc c'est cette rencontre qui est importante, et ensuite de pouvoir ramener à la conscience, donc sur le continent, l'apport qu'a été cette incursion dans l'au-delà.
Leonardo Incapier, nous en venons au héros de cette histoire, même si ce n'est pas le héros de votre livre, qui est Iseut, c'est Tristan. Alors déjà, l'origine de son nom, Tristan, dit beaucoup sur sa personnalité.
Tout à fait, c'est très joli, je trouve, dans l'histoire, d'expliquer son nom par la tragédie dans laquelle il naît, parce que finalement, sa mère meurt en accouchant, donc on a décidé de l'appeler Tristan, c'est-à-dire comme en faisant un jeu de mots avec triste et en, c'est-à-dire c'est cette année qui était triste pour lui, l'année de sa naissance.
Alors, vous en faites un héros très ambigu, à la fois fine l'âme, en même temps joueur de harpe de renom. Vous dites qu'il va d'échec en échec d'un point de vue symbolique. C'est un héros plein de faiblesses.
Ben, je trouve que c'est son charme. Hein.
C'est son charme, effectivement.
C'est son charme, et que finalement, un héros en amour est toujours un héros faible. C'est-à-dire que c'est ce domaine, c'est ce terrain de l'amour qui fait sortir en nous nos faiblesses, que finalement, c'est en acceptant peut-être ces caractéristiques-là qu'on arrive à une certaine réalisation de l'amour à la fin. C'est-à-dire, je voulais mettre en valeur le fait que Tristan est bel et bien un héros, mais pas avec les caractéristiques des héros que nous connaissons des autres mythologies.
Olivier Losty.
Ce que vous dites me fait penser à quelque chose de très très actuel, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'affaiblissement de l'homme, l'affaiblissement de la fonction masculine aujourd'hui. Vraiment, on en parle énormément. Tristan préfigurerait-il ça ? Ça, c'est une des parties de ma question. Et puis, la lecture de votre livre m'a aussi beaucoup renvoyé à de l'actualité autour du féminisme, et notamment de deux grands féminismes qui s'opposent. Le féminisme qui revendique d'être à la place de la blonde princesse, et non pas de la brune sorcière, et qui revendique aussi à ses côtés un héros, pas comme Tristan, pas faible, un héros, un homme fort, etc. Donc un certain féminisme. Le féminisme de l'autre côté beaucoup plus connu, qui est plutôt revendicatif, est-ce que celui-là, ce féminisme revendicatif, du coup, serait ramené, contrairement à la princesse de Walt Disney, qui est très chrétienne, à un rattachement païen? Est-ce que les fémènes, par exemple, sont des païennes?
Oui, je trouve que du moment où on commence à parler du féminin, on se trouve dans un domaine très mouvant et très ambigu et très complexe. Parce que finalement, les figures féminines qui, pour l'Antiquité, pouvaient donner certaines indications, qui pouvaient montrer certains chemins pour affronter le féminin, n'existent plus. Et n'existent plus pour nous. Du coup, c'est un peu complexe de penser c'est quoi le féminin pour nous aujourd'hui, c'est quoi le féminin que le féministe revendique. Vous voyez, c'est-à-dire c'est très difficile de le comprendre, de le symboliser. Il y a une chose qui à laquelle je tiens et qui est très importante, c'est peut-être ne pas voir dans le développement que je fais du féminin dans mon livre la femme. C'est-à-dire que je suis parti d'une idée archétypique, de ce point de vue, l'idée du féminin qui existe dans tous les êtres humains, hommes inclus. Et du coup, penser aux revendications de féministes de la femme, faudra peut-être le mettre avec d'autres conditions plutôt plus politiques ou plus sociologiques, qui vont expliquer sans doute mieux que moi comment cela se développe. Ce que j'essayais de faire un tout petit peu quand je parlais du féminin, c'était de voir quelles étaient les absences, c'était parler des absences, quels sont les manques qu'il y a et dans les femmes et dans les hommes d'aujourd'hui pour affronter la féminité qui existe en nous tous.
Alors vous appuyez bien sûr toutes vos remarques par des détails précis de la légende et des symboles. Alors, à propos de Tristan, vous par exemple, parmi plein d'autres, vous parlez de son épée ébréchée. Je trouve ça très beau comme symbole pour un héros, justement, d'avoir une épée ébréchée, le pauvre.
Tout à fait. Je trouve, moi aussi, ça m'a profondément touché, cette idée d'épée ébréchée, parce que finalement, on peut voir dans la symbolique d'héros comment l'épée est toujours un objet très important. Très important, essentiel, parce que...
J'ai viril également.
Exactement. Donc l'épée, en quelque sorte, que ce soit Excalibur, du roi Arthur et beaucoup d'autres, et c'est comme si l'épée représentait en quelque sorte la force du héros, représentait le héros lui-même. Et donc on se trouve que le pauvre Tristan, il a une épée ébréchée depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire. Mais... on revient en faiblesse, donc, du héros. On revient en faiblesse. C'est ça ce qui fait le charme de ce personnage. C'est-à-dire que c'est à partir de cette faiblesse, c'est à partir de cette épée ébréchée qu'il y a la possibilité c'est-à-dire d'un morceau qui vienne à compléter ce qui manque.
Le manque,
c'est,
en tout cas.
Le manque. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu ce que j'essaye de développer dans mon analyse de cette épée ébréchée. C'est-à-dire que si l'épée n'était pas ébréchée, Iseut ne serait pas nécessaire.
Alors, un autre personnage, évidemment, très important avant d'arriver à Iseut, c'est le roi Marc. Alors, qui est-il, le roi? Là, on va très très loin dans votre livre, hein, sur le roi, sur le fait que Tristan doit devenir roi et ne devient pas roi. Le roi, c'est une réalisation, finalement, de tout un être.
Tout à fait. C'est-à-dire que, comme je partais un tout petit peu de l'idée symbolique, des idées symboliques de la théorie jungienne, c'est-à-dire le concept des archétypes, j'essayais de voir chaque personnage comme une facette archétypique de l'âme humaine. C'était ça ce que j'essayais de voir. Et donc on peut voir dans cette figure du roi, que ce soit dans les contes de fées, que ce soit dans les légendes, que ce soit même dans les rêves, Cette figure du roi est essentielle parce que la figure du roi nous ramène en quelque sorte à un rapport avec le conscient et l'inconscient. Le roi, en quelque sorte, c'est cette figure qui peut relier ces deux champs, ces deux domaines de notre âme, quand il est dans la position correcte, quand il a passé tout un périple qui lui permette d'être couronné. Et son trône est véritablement à la place correcte. Donc, je voyais que finalement, l'histoire de Tristan et sa tragédie était liée au fait que, en tant que héros, il était destiné à devenir roi. C'est ce qui se passe dans presque toutes les narrations symboliques et mythologiques. Et que finalement, ce n'est pas le cas. C'est que finalement, là où on peut s'attendre au fait que Tristan prenne cette femme comme en quelque sorte son dû, c'est-à-dire, quand je dis cette femme, c'est le féminin dans la légende, et qu'à partir de là, la couronne, le trône lui soit octroyé, bon, il échoue. Ce n'est pas le cas. Il n'arrive pas à se dire qu'il va enlever, entre guillemets, Iseut, qu'il va la faire sienne aux yeux du monde, et qu'il va devenir roi.
Donc il ne devient finalement jamais roi pendant l'histoire, Tristan.
Non. C'est-à-dire, il y a des moments où il y a des royaumes autour, hein, comme vous voyez, comme quoi il y a toujours ce rappel de son véritable destin. Donc, dans certaines versions, il y a un royaume qui lui est octroyé parce qu'il fait des batailles, des guerres, etc. Mais il est toujours à la recherche de ce féminin qui est au-delà de la mer.
Alors nous en venons évidemment à Iseut, le personnage principal de votre livre. Et c'est vrai, à vous lire, on se rend compte que c'est aussi un personnage extrêmement important, peut-être même le véritable centre de toute cette légende. C'est Iseut qui est triple. Nous avons la mer, nous avons Iseut la blonde et nous avons Iseut aux mains blanches.
Aux blanches mains.
Aux blanches mains, pardon. Alors Iseut la mer, pour commencer, que représente-t-elle ?
Ce principe féminin, comme je l'appelle dans la légende, il apparaît, comme vous le disiez, donc, en triade. Il y a ces trois facettes de ce personnage. Et moi, je trouvais que finalement, il y avait comme deux personnages qui étaient un peu excentrés dans le sens où deux personnages qui étaient beaucoup plus proches de l'inconscient collectif, et un autre personnage qui était beaucoup plus proche de une autre facette du même personnage qui était beaucoup plus proche de la conscience de l'humain tel qu'on le conçoit dans la légende, c'est-à-dire de la vie quotidienne, de la cour, de la civilisation médiévale. Du coup, il y a ce personnage de la mère d'Iseut qui a toujours un tout petit peu comme ses caractéristiques magiques, c'est elle qui donne le filtre, qui le conçoit. D'ailleurs, c'est elle très probablement qui a mis du poison dans l'épée qui empoisonne Tristan dans son premier combat contre le Morolt. Et il y a disons la facette opposée à cette magicienne, et c'est cette autre facette qui est un peu froide, un peu muette dans presque la plupart de versions de la légende, et c'est Iseut au blanc chemin, qui va représenter en quelque sorte finalement la mort du héros.
C'est le côté obscur en tout cas.
Exactement, c'est par sa parole, c'est par son geste final qui est un geste de son discours que le héros va mourir. Donc il y a ces deux facettes de ce même personnage. Il y a Iseut la blonde qui est celle qui boit le filtre et qui... Voilà.
Alors ça c'est assez extraordinaire ce que vous... Et c'est ce qui a marqué aussi Dominique Desmichel quand il m'a parlé de ce livre-là. C'est-à-dire que, vous le dites très bien, la déesse finalement va boire le filtre et va s'incarner, va vivre la vie d'une... va retrouver la nature
d'un être humain.
D'un être humain. et va partager les mêmes souffrances, les mêmes douleurs amoureuses et les douleurs amoureux que le héros. Dominique, c'est ce qui vous avait, c'est ce qui vous a marqué évidemment dans ce livre.
Oui, mais j'étais beaucoup influencé par aussi des échanges qu'on avait eus, où on pense bien évidemment à une sorte de parallèle christique au fond, hein, où il y a une divinité qui va ensuite s'incarner dans une figure masculine. Là, il y aurait aussi quelque chose d'une divinité féminine qui viendrait s'incarner, qui viendrait faire l'expérience de la relation avec un humain. Hein. Voilà, je trouve que c'est tout à fait fabuleux comme perspective.
Et alors, cette perspective-là, justement, est-ce qu'on peut dire qu'elle échoue dans cette légende ou bien elle réussit et on arrive à ce que vous appelez retrouver un équilibre entre peut-être une religion patriarcale et quelque chose de beaucoup plus féminin ?
Cet essai échoue, bien c'est évidemment. C'est ce que j'essayais de comprendre. Parce que ma démarche était aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cet essai d'incarnation d'une déesse représentée par ce personnage d'Iseute échouée. Il y a quand même, et cela m'interpelle toujours, cette histoire à la fin, c'est-à-dire la fin de Tristan et Iseute, c'est bien évidemment leur mort commune. Mais il y a aussi, à la toute fin, la naissance de deux plantes à partir de leur tombe. Et donc, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que ce symbole de la renaissance, dans ce cas-là, un symbole plutôt végétal, de la plante qui pousse là où les corps ont été inhumés, montre comment la dynamique de l'inconscient collectif est tenace. C'est-à-dire, finalement, la mort est là, et bien là, soit, mais la renaissance se profile. Toujours.
Dominique.
Oui, je trouve qu'on retrouve quelque chose qui est assez similaire dans le mythe de Eros et Psyché, puisque au fond, ces deux personnages en permanence vont se chercher. L'un cherche l'autre, mais l'autre aussi cherche l'un. Il va y avoir quelque chose qui se termine tragiquement. Mais on peut aussi penser que l'histoire de Narcisse avec la nymphe Écho, oui, je mélange Narcisse et Écho, je voulais dire. Narcisse et Écho, c'est aussi une histoire qui peut se terminer de manière positive et vivante, puisque à la fin, dans cette descente aux enfers qu'on va retrouver dans beaucoup de mythes, dans beaucoup de contes, eh bien à la fin, il va y avoir une fleur, le Narcisse, qui va probablement associer et ce masculin et ce féminin.
Est-ce que la mort est forcément un échec ? On vous dit que non, mais je reprends le parallèle avec le christianisme. Ça se termine par la mort du héros,
ouais,
et c'est pas un échec du tout, quoi.
Mais faut comprendre aussi que je parle de la mort d'un point de vue symbolique, hein, que je ne parle pas de la mort d'un point de vue physique. C'est-à-dire que du moment où on reste dans l'espace du symbolique, et que la mort pour l'inconscient collectif représente une transformation.
Une transformation, pas forcément un échec, alors.
C'est-à-dire, je parlais d'échec dans cette légende spécifiquement, où on attendait, on s'attend que le héros devienne roi et puisse épouser sa bien-aimée. C'est un échec juste de ce point de vue. C'est-à-dire que si on conçoit la mort comme la transformation, ce qui est assez étonnant dans la légende de Tristan et Iseute, c'est qu'il meurt, il meurt. Et par la suite, on voit que les plantes qui naissent, mais le personnage, on ne les voit plus. Dans la légende, la mort est lapidaire. C'est ça ce que j'appelle un échec, dans les sens de la mort comme un échec dans la légende.
Vous ouvrez des perspectives sur cette légende assez vertigineuse, et en tout cas des enjeux extrêmement importants, parce que quand je reviens à cette histoire de roi, quand vous parlez de devenir roi, vous faites un parallèle avec les mythes et les rites du mariage sacré. C'est-à-dire qu'on devient roi aussi à partir du moment où on épouse la reine, et que quelque chose peut se créer à partir de ça.
Exactement.
C'est pas un roi égoïste qui...
D'un point de vue symbolique.
D'un point de vue symbolique, bien sûr.
Je voudrais quand même souligner que la reine, le roi et le héros, c'est nous. C'est-à-dire, épouser la reine, c'est épouser ce qu'il y a de féminin en moi. C'est d'épouser ce qui... il y a un moi qui veut apparaître, qui veut trouver une place. C'est ça, épouser la reine. Et que d'une certaine manière, épouser Iseute, c'est le Tristan qu'il y a en nous, épouser l'Iseute qu'il y a en nous. Donc, Parce que ça change un tout petit peu la donne de penser que cette recherche, il faut la faire à l'extérieur de soi-même. Moi, je suis parti de l'idée que Tristan Iseut nous parlait de quelque chose qui s'est joué dans nos âmes. Et que finalement, devenir roi, c'est être capable d'épouser le féminin ou le masculin en nous et d'avoir l'ouverture d'épouser quelque chose qui nous dépasse.
Il n'empêche que vous concluez votre livre sur une vision de l'amour assez pessimiste qui doit forcément se terminer par, même symboliquement, par la mort et l'échec.
Disons que la position pessimiste est la position de la légende de Tristan Iseut, pas la mienne. Ce que je veux dire, c'est que c'est une légende parmi d'autres, hein, et qu'il y a beaucoup de légendes universelles et même médiévales qui ont une fin heureuse, mais elles ne nous enchantent pas comme celle-ci. Donc c'est ça mon questionnement.
Merci beaucoup Leonardo. Merci Dominique. Merci Michel. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, je crois que justement, c'était tellement bien dit la fin
voilà.
que je n'ai rien à rajouter.
Et je pense qu'on aura donné envie à nos auditeurs eh bien de vous lire dans ce très beau livre, Iseut, la vie, la mort, le renouvellement. C'est aux éditions La Fontaine de Pierre que vous retrouvez sur Internet très facilement en tapant La Fontaine de Pierre dans votre moteur de recherche. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci, merci Simon. Merci beaucoup.
Au revoir. Thank you.